Il est 8h.
La majorité des patients intubés ont moins de 40 ans. Aujourd'hui, je reste chez moi pour sauver ma peau. J'ai peur, vraiment. Si j'ai besoin d'être hospitalisé, il n'y a plus de lit en soins intensifs.
Situation catastrophique au Brésil, où les mutants du virus se multiplient et font des ravages, des variants moins sensibles aux vaccins qui risquent de faire repartir l'épidémie aussi en Europe. Nous sommes allés voir comment les frontières et l'isolement des voyageurs étaient respectés. Dans ce journal, ces entreprises où il fait bon télétravailler avec une prime de quelques dizaines d'euros pour l'électricité et la abonnement internet. Et puis, le PSG qui s'avance prudemment vers son quart de finale retour de Ligue des Champions. Mais la pression ce soir sera bien sur les joueurs du Bayern. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Derrière la campagne de vaccination, la campagne électorale, régionale, présidentielle, on en parle avec mon invité, Guillaume Pelletier, vice-président délégué des Républicains et député du Loir-et-Cher. Rendez-vous à 8h15.
Juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Vous entendez parler quotidiennement du variant britannique, du sud-africain, du brésilien, mais on devrait dire les variants brésiliens, car ce sont bien des dizaines de mutants du virus qui apparaissent au rythme effréné des contaminations, des souches pour l'instant peu présentes en France, on va le voir, mais l'équilibre que nous connaissons aujourd'hui peut être balayé très vite, à l'image de ce que l'on observe aujourd'hui au Brésil.
Et c'est là qu'on vous retrouve, Marine Dacher. Bonjour Marie.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante d'Europe 1 à São Paulo. Et chez vous, les soignants comme les scientifiques brésiliens sont totalement dépassés.
Oui, la situation est devenue totalement ingérable avec ces variants très difficiles à cerner. Les cimetières débordés, les enterrements nuit et jour, le nombre de morts qui augmente. Et pourtant, il est de plus en plus difficile de convaincre les gens de rester confinés, comme l'explique le docteur Vasconcelos, infectiologue à São Paulo.
Quand vous entendez 2000 morts, 3000 morts, 4000 morts par jour, les gens ont fini par s'habituer à ce décompte macabre. Je pense même que si une étude confirme que le variant est plus mortel, ça ne leur fait rien. Les gens sont anesthésiés, vous comprenez ?
Anesthésiés et complètement perdus, car il n'existe aucune politique commune entre le président Bolsonaro, les gouverneurs et les maires. São Paulo vient de rouvrir les écoles, une décision incompréhensible pour beaucoup de parents au pire moment de la pandémie. C'est ce que pense ce père de famille en télétravail depuis un an avec ses trois enfants.
C'est irresponsable de les envoyer à l'école pour le moment. La majorité des patients intubés ont moins de 40 ans. Avant, on se disait, bon, mieux vaut rester à la maison. Aujourd'hui, je reste chez moi pour sauver ma peau. J'ai peur, vraiment. Si j'ai besoin d'être hospitalisé, il n'y a plus de lit en soins intensifs. Il faut rester calme et être très patient.
Environ 10% des 212 millions de Brésiliens ont reçu au moins une dose de vaccin. Qu'il soit efficace ou non, contre les variants, la priorité reste d'accélérer la vaccination et d'appliquer les gestes barrières.
Marie Nodacher en ligne de São Paulo pour Europe 1.
Aujourd'hui, le variant brésilien ne représente que 0,5% des contaminations en France. On pourrait se sentir protégé, loin de São Paulo dont nous parlions, et avec la vaccination qui accélère.
Oui, sauf que l'exemple du Chili doit nous alerter. Sa population est trois fois plus vaccinée que la nôtre, et pourtant les contaminations explosent ces jours-ci, faute d'avoir fermé les frontières. Et pour une autre raison, le variant brésilien est moins sensible aux vaccins dont on dispose. D'où cette question, faut-il craindre une arrivée massive de ces mutants via les voyageurs qui arrivent en France? Tous les jours, des vols en provenance du Brésil atterrissent à Roissy.
Bonjour Johanna Chabas.
Bonjour.
Vous êtes rendu hier à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Vous avez pu rencontrer des voyageurs. Alors Johanna, y a-t-il des dispositions différentes pour ceux qui viennent de Rio par exemple ?
Eh bien non, ils doivent suivre le même protocole que les autres voyageurs venant de l'étranger. Présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, déclarer sur l'honneur qu'ils n'ont pas de symptômes et s'engager à s'isoler 7 jours. Le protocole est légèrement renforcé depuis 2 jours avec un test antigénique à l'arrivée, comme pour d'autres pays jugés à risque. Les voyageurs testés positifs doivent se confiner 10 jours, comme l'explique Cécile Hardeman, commissaire à la police aux frontières.
Il va falloir qu'ils s'isolent, soit à une adresse qu'ils déclarent sur le territoire, soit dans une chambre d'hôtel à leur charge. Ça repose évidemment sur leur bonne foi, mais certains services de police peuvent éventuellement contrôler la présence de la personne au lieu de domicile qu'elle déclare.
Mais pour les voyageurs habitués aux allers-retours Paris-Rio, les déclarations sur l'honneur ne suffisent pas. Il faudrait imposer l'isolement.
Il n'y a personne qui respecte le confinement. C'est très inquiétant.
On n'a qu'à prendre l'exemple de l'Angleterre. Là-bas, c'est obligé. Le gouvernement les appelle tous les jours pendant son séjour en confinement.
confinement.
Et ces voyageurs craignent que la seule solution pour protéger la France du variant brésilien soit de fermer complètement les frontières avec le Brésil.
Merci Johanna Chabas. On comprend mieux ce matin la crainte sur la propagation et la dangerosité de ces variants brésiliens. Et dans le même temps, on s'interroge sur notre propre retour à une vie plus normale.
Oui, dans les 20 départements où des mesures restrictives avaient été prises dès le 20 mars, on observe déjà une baisse des indicateurs. Alors, au niveau national, quels seront les effets de ce nouveau confinement ? Victor Delande, concrètement, quand va-t-on savoir si ça va dans le bon sens ?
Alors on devrait en savoir beaucoup plus à la fin de cette semaine, car pour observer une stabilisation des indicateurs après la mise en place d'un confinement, il faut généralement 2 semaines. Et l'indicateur qui sera regardé avec beaucoup d'attention, c'est le taux de reproduction, c'est-à-dire le nombre moyen de personnes que contamine un seul malade. Quand il est au-dessus de 1, l'épidémie continue d'augmenter. Avec les mesures prises depuis 10 jours, plus les écoles fermées, il pourrait redescendre aux alentours de 0,7. Dans cette projection optimiste, l'épidémie reculerait rapidement, comme l'explique l'épidémiologiste Antoine Flao.
Si ce taux est autour de 0,7, c'est des chiffres que l'on a vus par exemple au Portugal récemment, alors on peut espérer une diminution par 2 du nombre de nouvelles contaminations toutes les semaines. C'est-à-dire qu'il faudra 3 semaines supplémentaires pour mener les nouvelles contaminations de 40 000 à 5 000 cas par jour.
Dans ce scénario, la France se retrouverait donc avec 5 000 nouveaux cas par jour autour du 10 mai, un niveau raisonnable pour bien remonter les chaînes de contamination. En revanche, si le confinement est moins efficace et que le taux de reproduction se situe à 0,9 à la fin de cette semaine, il ne faudra plus 3 semaines, mais 3 mois pour revenir à ces 5 000 contaminations quotidiennes.
Victor Delande, spécialiste santé d'Europe 1, et dans cette perspective que vous nous donnez, on retient aussi ce nouveau changement apparent, nouvel épisode feuilleton du calendrier des élections régionales et départementales. On pensait hier soir et encore ce matin, après consultation des maires, que le gouvernement restait sur les dates prévues, mais il y a quelques minutes à peine, Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, déclare que le Premier ministre devrait proposer de décaler le scrutin d'une semaine fin juin.
Et puis, pour nous redonner un peu d'espoir, regardons de l'autre côté de la Manche. Les Anglais ont humé hier soir comme un parfum de printemps.
La réouverture des pubs célébrée ici avec force à Londres, elle était prévue de longue date. Le calendrier a été respecté, tout comme d'ailleurs celui de la vaccination. 60% des adultes en Angleterre ont reçu une première dose de vaccin.
Pas de terrasse hein, pour le moment en France, bon vous le savez. Et toujours le télétravail, recommandé partout où c'est possible.
Oui, alors au fait, qu'en est-il de la prise en charge par les entreprises, des frais que supportent les salariés contraints de travailler chez eux? La plupart du temps, quand il y a accord, eh bien, les accords de télétravail prévoient des systèmes de défraiement. Olivier Samin.
Il y a les entreprises pingres qui disent « à quoi bon vous indemniser puisque le télétravail s'appuie sur le volontariat ?» Sauf qu'en ce moment, l'argument a du mal à tenir. Et il y a les entreprises plus généreuses qui ont conclu des accords récents prévoyant la plupart du temps une somme forfaitaire exonérée de cotisations. Chez l'assureur Allianz, par exemple, c'est entre 10 et 50 euros par mois. Chez Accenture, c'est un peu moins, 35 euros, pour ceux qui travaillent chez eux au moins 4 jours par semaine. 35 euros parce que le chauffage, l'électricité, l'abonnement Internet sont pris en charge, oui, mais pas les cartouches d'encre, ni les ramettes de papier, protection de la planète oblige. Pas mal, reconnaît Jérôme Chemin, secrétaire général adjoint de la CFDT cadre, mais, dit-il, il faut quand même se battre dans les négociations.
Généralement, les employeurs arrivent en négociation en ne mentionnant pas le remboursement des frais dans les projets d'accord, donc c'est quelque chose sur lequel les négociateurs doivent batailler, d'autant que c'est une revendication de plus en plus forte, puisqu'aujourd'hui, le télétravail concerne toutes les populations de l'entreprise, par rapport aux accords que nous avions avant sur le télétravail, qui concernaient principalement les cadres, et c'est un nombre moins important de jours de télétravail.
Ce qu'il faudra maintenant regarder, dit la CFDT cadre, c'est le partage de la valeur au vu des bénéfices que les entreprises vont pouvoir tirer de la réduction du nombre de leurs mètres carrés de bureau.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Ils ont bataillé pendant 7 mois jusqu'à plus soif. Les 2 géants français de l'eau et des déchets vont finalement trinquer à leur mariage, ou plutôt au rachat de Suez par Veolia, dont le patron Antoine Frérot savoure sa victoire. Projet enthousiasmant, intégrité industrielle garantie, affirme-t-il ce matin dans une interview au Figaro. Cette acquisition est une bonne chose pour la planète, dit-il. Et avec cet accord, tout le monde est gagnant. Il rappelle la garantie de l'emploi en France pendant 4 ans.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Cette nouvelle bavure policière aux États-Unis, et c'est encore à Minneapolis, moins d'un an après la mort de George Floyd. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h11 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Situation très tendue à Minneapolis aux États-Unis. La ville est sous couvre-feu, les matchs de basket de la NBA ont été annulés et un millier de soldats de la garde nationale sont déployés face à des craintes de débordement après la mort dimanche d'un jeune homme noir de 20 ans lors d'un contrôle routier.
La vidéo de la caméra piéton portée par la policière a été diffusée.
Vous entendez cette confusion et cette policière qui dit en substance qu'elle s'est trompée entre son taser qu'elle pensait utiliser et son pistolet qui vient en fait de faire feu. Et il y a le contexte, le procès du policier qui avait étouffé George Floyd il y a un an a lieu en ce moment dans cette même ville. Joe Biden a réagi. Nous savons que la colère, la douleur, la souffrance qui existe chez les personnes noires est réelle, mais cela ne justifie pas la violence ni les pillages, déclare le président américain.
8h12 sur Europe 1. Après l'enlèvement de deux religieux français dimanche en Haïti, Paris ouvre une enquête. Enquête pour enlèvement et séquestration en bande organisée.
Les ravisseurs demandent 1 million d'euros de rançon, une somme colossale dans un pays, on le sait, peu familier de ce genre de kidnapping. Il y a eu plus de 1200 personnes enlevées en Haïti l'an passé. Jean-Sébastien Soldaini.
L'enlèvement est un business à Port-au-Prince, si bien qu'Arnold, réalisateur de films, évoque un commerce de gros et de détails. Comprendre, tout le monde peut être ciblé, quelle que soit la classe sociale, alors il sort de chez lui en rasant les murs.
D'abord, je ne me promène jamais. Et quand je suis obligé de sortir, où l'on conduit la voiture en regardant dans tous les rétroviseurs possibles, dès que quelqu'un s'approche, si je remarque que c'est la même voiture qu'il y a derrière moi, au cours d'un kilomètre, je change de route.
Il rappelle qu'il y a quelques jours, le fils d'une vendeuse de cacahuètes a été kidnappé. Sa maman n'avait pas les moyens de payer. L'enfant de 5 ans a été pendu. Jean-Marie Théoda, maître de conférence à l'Université d'État de Port-au-Prince, souligne que dans un pays aussi pauvre, chaque vie prend de la valeur.
En enlevant une personne, vous êtes capable de tirer au moins de quoi vivre pour la semaine, parce que ce sont des rançons qui atteignent au maximum, cela se chiffre en centaines d'euros.
La majorité de ces gangs sont constitués par de jeunes hommes de moins de 20 ans désœuvrés. Ils agissent bien souvent avec la complicité de certains policiers qui leur fournissent armes de gros calibre et protection.
Une grande soirée de football ce soir sur Europe 1. Le PSG reçoit le Bayern Munich en quart de finale retour de Ligue des Champions.
Oui, après sa victoire 3-2 à l'aller, Paris a 95% de chances de se qualifier, paraît-il. Mais Cyril de la Morinerie, on sait ce que valent parfois les statistiques.
Oui, les Parisiens devront être solidaires, défendre ensemble pour s'offrir une soirée de légende. Mais il faudra aussi être plus entreprenant. Pas question de subir autant qu'en Bavière. Le Bayern avait terminé la rencontre avec 31 tirs contre 6 pour Paris, prévient l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino.
Ce n'est pas une question d'hommes, mais plutôt d'attitude collective. On doit non seulement défendre, mais aussi jouer avec la possession du ballon, défendre et attaquer. C'est ça le défi.
Le Bayern est dos au mur, une victoire 1-0 au Parc des Princes des Bavarois ne suffirait pas pour les qualifier. Paris devra faire bloc pour résister aux assauts des coéquipiers de Benjamin Pavard, confirme l'ancien joueur du PSG, Jimmy Algerino.
C'est vrai que quand une équipe court et ensemble, il y a de plus grandes chances de faire de bons résultats. Et on sait que Mbappé et Neymar pourront marquer un but au moins au Parc.
Les deux fantastiques sont d'ailleurs en forme. Mbappé, auteur d'un doublé en Bavière, a encore marqué le week-end dernier en Ligue 1. Quant à Neymar, qui a réussi 2 passes décisives sur la pelouse du Bayern, la star a pu se reposer ce week-end et affiche, comme l'ensemble du groupe parisien, beaucoup de sérénité.
Cyril de la Morinerie, soirée spéciale dès 20h ce soir sur Europe 1. Le match en intégralité, bien sûr, PSG Bayern à 21h.
Merci beaucoup François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.